Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas que de Jack Vance, mais des planètes géantes. Alors, dans la réalité physique, une planète géante, c'est une planète très massive, volumineuse, mais peu dense. C'est une des deux familles de planètes que l'on trouve dans le système solaire. La première, celle des planètes telluriques, essentiellement composées de rochers et de métaux, et dans notre prototype, c'est la Terre, ou Vénus, ou Mars, voire Mercure. Mais les planètes géantes se divisent en deux catégories distinctes. Les planètes géantes gazeuses, hydrogène et hélium, telles Jupiter et Neptune, appelées aussi joviennes à cause de la première, et les planètes géantes de glace, telles Uranus et Saturne. C'est celle-là qui arrive à la fin des temps et qui casse la gueule à tout le monde. Non, là, je confonds. Ça ne peut pas être ça. Alors, elles possèdent également une épaisse atmosphère d'hydrogène et d'hélium, mais leur composition contient beaucoup plus de composés lourds, appelés glace, jusqu'à 80% de leur masse globale. Dans le système solaire, les planètes géantes sont les plus éloignées du Soleil, car selon la théorie communément acceptée, elles n'auraient pas pu se former aussi près d'un astre. Toutefois, des récentes observations astronomiques tendent à infirmer cette proposition. Et on aurait pu trouver, il paraît, des planètes géantes qui seraient de l'ordre de Chai. Il n'est pas du tout évident qu'on pourrait survivre dessus. Les planètes rêvées de la SF s'approchent donc très rarement de ces modèles. Déjà, elles sont habitables, sont très réelles aux justifications scientifiques. Alors, on pourrait en citer. On pourrait citer Hyperion, on pourrait citer Dune, on pourrait citer Magipour, Helicona, Chai, évidemment, et pour une des dernières, Gigante, qui est une planète qui a été inventée par Pierre Bordage et Alain Grousset.
Hyperion aussi,
finalement. Je viens de le citer, non ? Mais, d'un certain côté, on pourrait y mettre aussi au mal. Qu'en penses-tu ?
Alors, au mal, c'est embêtant parce que c'est pas vraiment une planète.
Bah oui, mais...
Voilà, mais disons, ça poursuit un peu la tendance. Alors, c'est intéressant parce que on a cité Hyperion, Arrakis, Heliconia. C'est pas des planètes géantes, mais c'est des planètes fortes. C'est-à-dire que c'est des planètes qui sont à la base de ce qu'on appelle les romans planétaires, planetary romance, et qui sont en fait donc des planètes qui donnent, qui justifient à elles seules la narration. Dont le héros en fait est une des récits dont le véritable héros est la planète, ou alors qui a servi de lieu à la première histoire et où finalement l'environnement s'est révélé tellement intéressant et tellement prenant que l'auteur va y revenir avec éventuellement d'autres personnages ou faire suivre l'aventure. Mais donc voilà, que ce soit ces planètes là qui sont des planètes qui se sont imposées par elles-mêmes, qui transcendent les histoires et les personnages qui y habitent. Après, en fait, dans les caractérisations des planètes, on voit avec Star Wars, les planètes, elles sont très caractérisées. Il y a même des glaces, il y a des sables avec Arrakis.
Il y a la planète Bahamas, la planète Finlande.
Voilà, exactement, oui, tout à fait. Et donc, finalement, de caractériser une planète par sa taille, c'est une autre caractéristiques, mais qui pourrait être autre chose. Alors ça a sa justification. Hein. Mais Chai, la planète géante de Vance, ces deux planètes-là, Magipour, qui a sa source dans la planète géante de Vance, d'ailleurs, et les autres planètes géantes de cette époque-là, c'est 13 années 50, c'est une caractérisation finalement comme une autre, je pense. Et en fait, pour revenir juste une remarque, en fait, ça, les planètes géantes telles que imaginées par Vance et consorts, c'est ce qu'on appelle des super-terres aujourd'hui. C'est-à-dire c'est des planètes telluriques, rocheuses, avec une atmosphère est compatible avec l'habitation humaine. C'est juste qu'elles sont beaucoup plus grosses. Alors elles sont entre 1,5 et 3-4 fois la surface de la Terre. On peut imaginer, alors évidemment c'est trop embêtant pour y faire vivre des hommes, donc les auteurs comme Vance ont dit, c'est des planètes avec une densité moindre. Alors dans la réalité ça marche pas, mais c'était intéressant parce que c'est ça qui a avancé, pour ça que ça va arriver vers Omal, et c'est ça qui a amorcé qu'à un moment, la science-fiction à partir des années 40, elle est devenue assez réaliste. Et quand la planète géante, c'était un petit peu le seuil de réalisme. Après la planète géante, on ne peut pas imaginer des planètes de plus de 3-4 fois la grosseur d'une masse, parce que c'est juste plus réaliste. Et c'est pour ça qu'après, à partir des années 50-60, on va avoir des artefacts, c'est-à-dire que les auteurs ils vont imaginer, pour faire plus vaste qu'une planète, eh ben on va imaginer autre chose qu'une planète, parce que la planète, elle a ses limites, des limites physiques.
Tu mettrais l'anneau monde de Larry Niven.
Complètement, c'est ça, c'est exactement ça. L'anneau monde 1970, ce qui est bien justement la jonction avec justement ce besoin de rester réaliste, mais d'offrir un environnement beaucoup plus vaste. Alors, l'anneau monde, vous imaginez, c'est l'équivalent d'une sphère de Dyson, c'est-à-dire comme une coquille autour d'une étoile, à peu près une unité astronomique de distance, c'est-à-dire 150 000 km de rayon. Mais l'auteur, Larry Niven, il a fait sauter les parties les moins intéressantes, qui sont les calottes polaires, et pour ne garder que la bande équatoriale, la partie habitable, en fait. Donc il l'a fait tourner pour induire une orbite artificielle, et cette anneau monde, il a fait une matière, le Screech, qui est une sorte de neutronium, c'est-à-dire de matière extrêmement dense, pour le coup, et donc très résistant aux torsions, notamment. Et donc il nappe ça d'une atmosphère à l'intérieur, une couche d'atmosphère, très très mince évidemment, à l'échelle de la monde, et il peuple ça de plein d'espèces. C'est ça un peu le concept. Et donc du coup on a une surface habitable qui se compte en dizaines de millions de fois la surface de la Terre.
Alors tu parlais de planètes réalistes. Olivier Anselme Trichard, alors je vais vous présenter. Vous avez étudié à l'école d'art d'Angoulême, travaillé dans l'animation et chez Infogrames. Vous êtes l'un des cofondateurs d'Arkane Studio, l'un des studios français de jeux vidéo les plus réputés. Vous êtes passionné d'aviation et de voyage. J'ai tout lu ça sur sa bio, sur même Nemos. Depuis 2005, vous avez entamé la rédaction nordique. Et dans tout ce que vient de nous dire Laurent, comment est-ce que vous placez le nordique, justement?
Alors, a priori, le nordique, l'action du nordique se situe sur une planète un peu équivalente à celle de la Terre, pourquoi pas la Terre, mais à une époque indéterminée. En tout cas, c'est une planète indéterminée à une époque indéterminée. Tout est indéterminé, en fait. Si ce n'est que ce qu'on sait, c'est que une civilisation aurait plus ou moins disparu à une certaine époque et que nous sommes sur une espèce de retour vers une certaine technologie et une certaine aussi exploration du milieu qui est rendue possible grâce à la technologie en question et qui permet d'organiser des expéditions qui partent à la redécouverte de l'environnement et de cette population.
Et le souci scientifique fait partie de vos préoccupations ou pas?
Pas du tout.
Vu l'indétermination, ça paraissait, c'est clair.
Voilà.
Une gamme de sel, vous, vos romans de planète géante, c'est quoi? À part Chai. Alors Chai, pardon, Chai. Comment êtes-vous arrivé à Chai?
Non, grosso modo, on m'a demandé d'illustrer, du coup, je suis tombé dessus, quoi. J'ai pas vraiment de réponse.
D'accord. Alors, parlez-nous de vous. Donc.
Je suis un illustrateur. J'ai étudié à l'INFO, là, non. J'ai dû finir mon jeu ceci à 3-4 ans. Et depuis, j'illustre des romans, que ce soit une œuvre complète ou juste une couverture. Et du coup, je travaille déjà avec Lumos pour faire une couverture. Par exemple, j'ai pour le faire. Et du coup, j'ai fait des listener, le fil en aiguille. J'ai été assigné comme illustrateur à Tchari. Et j'ai découvert, en fait, j'ai découvert j'avance avec le projet. Quoi. J'avais pas une culture phénoménale de ça.
Et comment est-ce qu'on s'en sert dans l'imagination, non seulement d'un auteur mort, mais d'auteurs vivants, quand on est illustrateur? Les auteurs qui t'en raillent parce que ça ne fonctionne pas, parce que.
C'est pas. Enfin, personnellement, c'est assez, ça se fait assez naturellement. Quoi. Quand je lis le roman ou pareil, les briefs avec les auteurs, la première chose que j'essaie de ressentir, c'est l'ambiance qu'ils essaient de véhiculer. Le monde comme eux, ils le voient en fait. Moi, je suis juste l'outil qui retranscrit ce qu'ils disent en fait. Et je ne me vois pas comme un artiste. Ma seule préoccupation, c'est d'être le plus fidèle possible à ce que l'auteur se visualise. Et à partir de là, c'est quelques mots, des sensations qui commencent à me marquer et sur lesquelles je construis le visuel.
Étienne, a priori, tu étais plutôt un érudit spécialiste chez Lucadic, bien que tu aies fait une incursion récente en réflexion en somme avec la France Punk. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça et toi? Ne réponds pas à mon éditeur.
On m'a proposé une somme d'argent récente.
L'éditeur, on ne le nomme même plus.
Parce que ça passait par les Caïmans. C'est compliqué ça. Non, je sais pas, Chai, ça fait partie de ces grandes lectures d'adolescents que j'étais et qui ont façonné toute une part de mon imaginaire. Ça fait partie des peut-être des 5 livres sur lesquels j'ai des souvenirs de lecture frappants par rapport à cette époque-là. Et relire Chai quelques dizaines d'années après pour préparer ce livre-là, ça a été quelque chose de terrible parce que je le relisais, mais en même temps je me relisais moi-même et j'avais des souvenirs qui ne revenaient pas forcément parce que l'homme que je suis, l'adolescent est toujours présent, mais l'homme le recouvre. Et Chai, ça fait partie de ces livres que l'on habite. Et qui reste avec nous, même si aujourd'hui on peut le relire peut-être avec une distance amusée et un regard un peu plus critique.
Clairement critique, oui, sur certains points.
Mais ce qui est fascinant, quand tu parlais de Dune, le début de Dune, quand on lit Dune pour la première fois, les 100 premières pages de Dune, où il nous fait l'exposé méthodique de la planète, où il va utiliser quantité de termes scientifiques. Il y a un contrat de lecture qui se fait avec le lecteur qui est assez impressionnant aujourd'hui. On se demande même dans quelle mesure est-ce que Herbert choisit son lecteur en lui disant si tu continues à lire ça, on te récompensera ensuite. Si tu abandonnes maintenant, pas de problème, la planète n'est pas pour toi. Par contre, avec Chai et Vance, il n'y a aucun contrat de lecture. Le héros arrive sur la planète et on va la découvrir au fil de chacun des volumes. Et à chaque fois, ça va être un espace géographique plus ou moins différent. Ce qui fait que sur Dune, paradoxalement, on s'y perd jamais parce qu'on a une maîtrise de la planète. Tandis que Chai, elle est constamment évoquée, explorée, rêvée d'une certaine façon. Donc on est dans une approche de la planète en tant que personnage littéraire, comme tu le disais, qui est totalement différente.
Alors, le fait même qu'elle est géante, c'est pour ça qu'elle est géante. C'est pas juste une planète, contrairement à Dune, qui est une planète chaude, mais pas une planète géante. Dans le mot géant, il y a ce truc d'opéra. Il y a ce qui est impliqué, ce qui est implicite dedans, c'est le opéra de space opéra, de planète opéra. C'est tout est plus grand dans l'opéra. Tout est plus, tout est démultiplié, et notamment les distances. C'est pour ça qu'on la découvre un peu toujours forcément, les planètes géantes, parce que le gigantisme de la planète, ça restaure les distances antiques. Même avec un vaisseau, même avec des moyens de transport rapides, on ne fera pas le tour d'une planète géante dans les 24 heures qu'on a sur Terre aujourd'hui en avion, qui survole la Terre à 10 km d'altitude et qui peut faire un tour de la Terre très rapidement. Il n'y a pas cette... c'est une façon de retourner à l'épopée, quelque part, d'aller sur une planète géante.
Et on a l'aspect totalement baroque qu'on retrouve effectivement dans certains opéras. Et ça, oui. Chez Vance, c'est
Chez Vance en particulier, sur Magipour aussi.
Sur Magipour est moins baroque, parce que Magipour, enfin, dans mon souvenir par contre, hein, parce que ça fait bien entendu.
Oui, c'est plus bucolique, mais c'est baroque quand même.
C'est bucolique, c'est plus monoclimatique.
Oui, peut-être aussi.
Il y a, on a...
Le baroque, il est dans l'architecture.
Voilà.
Voilà, il y a Sauror dans Noé de Stéphane Lul, qui est aussi une planète qu'on va énormément. Qu'on va découvrir, c'est le même processus que dans Child, c'est une sorte de Child à la française, quelque part.
Oui, ça c'est dans le deuxième volume que j'ai jamais réussi à finir, hélas, mais jamais.
Il y a Eliconia, etc.
Eliconia, on change, ça c'est pas monoclimatique, et pour cause.
Oui, enfin ça change.
Parce qu'on la regarde mourir, ce qui est très intéressant aussi. Mais il n'y a pas de voyage à la place au-dessus des Heliconia.
Non, c'est vrai.
C'est juste un regard. Heliconia est un roman de Brian Aldiss, si je ne m'abuse, qui comprend Heliconia l'été. Heliconia...
Alors c'est le printemps d'Heliconia, l'été,
l'hiver d'Heliconia. À la fin, on sait que la planète va disparaître. Et les Terriens observent les personnages qui sont sur Heliconia en sachant que. Il y a la fin de la planète au bout de l'histoire. Donc c'est une tragédie, une très belle tragédie, mais une tragédie. Mais là, on n'est pas dans ce, on n'a pas ce monoclimatisme non plus qu'on va retrouver sur Lune.
C'est un changement très très lent.
Voilà.
Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la longue année, qui est une année de 1000 ans. Et tous les 1000 ans, c'est une année qui dure 1000 ans, on va dire. Et donc l'humanité, il y a le règne de l'humanité l'été, et puis l'hiver, il y a le règne des Phagors, qui est l'espèce natif en réalité de la planète Heliconia, qui reprend la main sur l'humanité qui est arrivée très très loin dans un lointain passé et qui a entrepris de coloniser Heliconia, mais qui n'est jamais vraiment parvenu. Donc c'est une sorte d'alternance entre ces deux espèces qui profitent du changement climatique pour s'installer. C'est ça, c'est une sorte d'alternance.
Et du coup, comme la planète est elle-même un personnage, on peut se dire que la cartographie devient hyper importante. Dans votre cas, Olivier, est-ce que vous avez créé une cartographie pour le Nordique ?
Oui, absolument. Alors, elle est partielle, puisque c'est une cartographie qui ne recouvre qu'une portion, un continent, sur l'ensemble d'une planète. C'est directement, en fait, des personnes qui vivent là, ont régressé technologiquement, ils n'ont plus été capables d'explorer tellement de territoires. Donc là, du coup, l'échelle redevient une échelle, on n'a plus de véhicules, on n'a plus de satellites pour explorer, c'est des navires, des chariots, etc. Donc on est dans une exploration à l'échelle d'un continent qui n'est pas énorme, qui serait plus petit que. Territoire qui serait plus petit que les États-Unis, par exemple.
C'est une cartographie que vous avez faite d'abord, qui a accompagné le voyage de vos personnages.
Alors, c'est, je dirais, une cartographie préalable, donc elle a été tracée au hasard avec une plume sur une feuille de dessin. Puis les frontières, etc., les pays se sont installés les uns après les autres, et puis les fleuves, et puis. Les villes, le nom des villes, etc. Et puis au fur et à mesure des besoins, j'ai vraiment besoin de faire un focus sur un endroit, la carte qui s'ouvre, et il y a de plus en plus de villes, de plus en plus de villages, de plus en plus de cours d'eau. Il y a donc au départ une construction générale qui vient comme ça spontanément. Et puis ensuite, au fur et à mesure du récit et des besoins du récit, une seconde cartographie qui vient préciser un peu, le parcours qui est suivi par l'expédition et le recartographie ensuite.
Degen, votre tour, les cartographies de Chai, est-ce qu'elles ont fait partie de votre imaginaire pour dessiner vos illustrations ?
En fait, ouais, justement, c'est comme vous disiez, moi ça s'est plus fait au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire, dans la formation du livre, commence avec quelque chose d'extrêmement flou, et au fur et à mesure, les villes se dessinent et se mettent un peu en place. En même temps qu'on découvre l'œuvre. Et du coup, c'est vachement plus progressif. Parce que déjà, dans le chat, les trois premiers tomes ils ont chacun leur grande ville qu'on découvre au fur et à mesure. Et puis, comme tu le disais, c'est qu'il y a ce flou un peu entre les zones qu'on n'arrive pas trop à déterminer.
Jacques, c'est très fort pour ça. Il vous fait croire qu'il vous a tout décrit, mais en fait, quand vous reprenez les détails, vous apercevez qu'il y a des trous de narration monstrueux. Alors du coup, on est obligé de les combler. C'est assez. Tu as dû avoir ce problème à certains moments, non?
Pour le livre de Chai, chacun des quatre auteurs avait sa propre race. Il y avait trois races intéressantes.
Trois espèces.
Et donc, il y avait trois espèces intéressantes et il y avait la mienne. Et justement, le défi était de rendre intéressant quelque chose qui était dans le. Que Vance, c'était voilà, dans le roman, ils sont plutôt cruches. Donc non, enfin moi ce que j'en ai fait c'est que voilà, si vous
prenez... T'as pas dit quelle espèce tu veux.
Les chaches, ouais. Déjà, rien que leur nom inspire le respect et fait peur à l'ennemi. Donc je n'avais qu'une seule chose à faire, si vous avez les personnages les plus creux, les plus inintéressants, il faut en faire Spartacus. Donc... Ils sont devenus des Spartacus, et c'est exactement ça ce que j'ai voulu faire.
Oh, ça a très bien marché. Mais tu sais, c'est pas mon avis, les pires, c'est les plumes, pour moi. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui se sont occupés des plumes, franchement. Parce que les dire-dire sont odieux, c'est ce dont j'ai assumé là. Mais c'est plus facile de faire des personnages odieux que des fragiles créatures qui s'évanouissent dans la lumière. Mais du coup, tes problèmes avec la cartographie, comment tu les as réglés, toi?
Le problème que nous avions, c'était de revenir sur une planète qui avait été déjà explorée et d'avoir une cartographie et une circulation cohérente par rapport au modèle préexistant. Donc il y avait des choses qui n'étaient absolument pas modifiables ou à peine transposable dans le temps, parce que nous sommes après. Mais la cartographie en elle-même, c'est comme quand on voit les vieilles cartes qui comportent encore la notion de terra incognita quelque part. Donc là, c'est un appel à rêver. Donc c'est toujours... et là encore, c'est un plaisir de gosse, hein, parce que quand on lisait les livres de poche avec les cartes qui étaient au début du volume et sur lesquelles on retournait de temps en temps pour voir, essayer de repérer où se situe l'action parce qu'on avait oublié. Et moi, je revenais sur la carte et essayais d'imaginer tout simplement.
Dis-moi, Laurent, toi, quand tu fais au mal, quand tu fais tous tes autres mondes, parce que je n'ai pas qu'au mal dans ma vie. Et donc, tu fais une cartographie avant ou tu y vas en scénarisant, je sais pas.
Ça dépend, mais oui, moi je suis très carte, j'adore ça. J'adore les cartes. Quand on m'a demandé pour une publication, on m'avait demandé qu'est-ce qui m'avait plu dans Le Seigneur des Anneaux. Moi j'avais dit, moi c'est les annexes. C'est les cartes, c'est le lexique, c'est tout ce qui est extra-romanesque, mais non pas extra-littéraire. Les cartes, les lexiques, les chronologies, tout ça, ça fait partie de l'univers. Donc c'est entièrement littéraire pour moi. C'est juste que c'est pas dans l'histoire, en fait. Mais on peut créer... Pour moi, ça fait partie du rêve qu'offre une planète, en fait. C'est justement sa géographie. Alors, il y a, quand j'ai fait un site qui s'appelle sur Oman, c'est la première réponse quand on google Oman, et dedans il y a un lexique et il y a une cartographie Alors ça peut paraître bizarre de faire une cartographie alors que ça peut paraître vain puisque la surface habitable de d'Omal, c'est 60 millions de fois la surface de la Terre, dont plus de 10 000 fois la surface habitable, enfin plus de 10 000 fois la surface de la Terre dévolue aux humains. Donc c'est mais en fait, il y a des parties intéressantes. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que dans une cartographie, tout ne se vaut pas. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est un peu comme un récit. Dans un récit, tout ne se vaut pas. On va pas raconter tout ce que fait un héros de son lever à son au coucher. Hein, il y a des trucs plus ou moins intéressants. La cartographie, c'est un peu pareil. Les cartographies, moi, elles sont intéressantes dans Omal quand elles montrent les lignes de fracture entre les différentes espèces. Entre l'humanité, les humains, les chiles et l'Ovkin, donc les deux autres espèces d'Omal que j'explore un peu. Et c'est là que c'est intéressant, c'est dans le nom des villes. Quand je montre dans la cartographie, dans la carte, des villes à consonance humaine et des villes à consonance chile, par exemple, et que je vois que les villes humaines sont en train de s'étioler à mesure qu'on rentre dans le territoire, on voit, c'est une manière de montrer les guerres qui ont été gagnées, qui ont été perdues. Et voilà, ça...
Tu veux dire que sur la carte, tu as tes villes humaines qui commencent à s'interpénétrer avec les villes chiles,
voilà,
que la toponymie rend compte du...
Voilà, ça rencontre, et puis des villes avec une double consonance, des consonances humaines, mais une manière de composer les mots qui est spécifiquement chile. Donc là, on va voir que c'est ce que j'appelle des amphipoles, c'est-à-dire des villes qui ont été partagées entre les espèces.
D'accord, un peu comme les villes du sud-ouest où on a des noms comme Castelnau-Barbarins ou Castelnau,
voilà,
où on a à la fois les gens du cru et les Omeyyades qui sont passés, qui ont traversé les Pyrénées, qui sont souvent installés là, ou Casodangle, là c'était les Anglais, avec le... voilà, ouais.
Donc la cartographie, elle se mixe aussi avec les terrains incognita dont on parlait. Mm-hmm. Les cartes, elles sont aussi intéressantes parce qu'elles montrent que parce qu'elles ne montrent pas. Donc on peut avoir des... Voilà, les blancs sur la carte sont hyper intéressants aussi.
Excusez-moi, mais je connais pas votre planète, ça s'écrit comment?
O-M-A-L-E.
Omal.
Omal.
Ça vient de quel
auteur? C'est un mot inventé, que j'ai inventé, tout simplement.
C'est vous qui avez inventé cette planète?
Oui, c'est ça.
Parce que j'essaie de le chercher, je trouve pas.
Alors c'est O-M-A-L-E.
Et c'est le cycle d'Omal de Laurent Jeunefort.
Voilà.
Mais il n'y a aucun problème. Quand on ne sait pas, il faut lever la main et demander.
C'est la prof.
Alors, tout autant que la cartographie, il y a les espèces à la surface de la planète qui sont elles-mêmes des êtres vivants globaux en soi. Comment est-ce qu'on crée une espèce? Qu'est-ce qu'on veut faire dire à une espèce lorsqu'on la crée? Personnellement, j'ai choisi les dire-dire parce que ce sont d'abominables anarchistes et que c'est une forme d'utopie qui est absolument abominable quand même, mais qui fonctionne dans Civif, dans le sens où c'est l'initiative individuelle qui prime sur tout, à condition qu'elle ne nuise pas au collectif, ce qui est assez exceptionnel, sachant que les dire-dire sont quand même des monstres assassins. J'ai toujours adoré l'ambiguïté qui était décrite dans cette espèce, les dire-dire. Alors, c'est un regard d'Américain sur l'anarchie, c'est assez spécial. Il y a tout le background de la rendite, des libertariens qu'on peut retrouver dedans. Tout le monde voit de quoi je parle, la rendite, les libertariens. Levez la main, ceux qui ne voient pas. Non, mais j'en vois qui ne voient pas.
Ouais, non, mais au fond... Libertarien, c'est peut-être quand même par rapport à l'anarchie, celle qu'on voit en Europe ou en France, c'est quand même plus individualiste, il me semble, non?
Disons que non, le libertarien ne veut pas d'intervention de l'État ou alors...
Non, ils sont hyper individualistes, voilà. Les libertariens, mais avec un libéralisme économique.
En plus.
Voilà, c'est tout. C'est la différence. C'est le libéralisme économique.
Un libertarien ne voit pas bien pourquoi l'État se mêlerait de choses aussi individuelles que, par exemple, la vitesse qu'on pourrait avoir sur une route.
Oui, mais voilà. Le mouvement anarchiste français ou européen, c'est quand même Enfin, il paraît moins individualiste. Enfin,
il... Ah ben, on...
enfin, il y a des préoccupations sociales qu'il n'y a,
oui,
pas chez les libertariens.
Oui, c'est ça. Oui, c'était plutôt sous cette forme-là. Oui, d'accord. Voilà. Ouais.
Les anarches européens se
veulent... Ils sont vraiment de gauche, ils sont d'extrême-gauche.
Ah bah oui, ça abuse. Les libertariens, un peu moins. Alors, l'avantage, enfin, pour moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'était le côté extrêmement anarchiste des Birdir, bien que leur côté snob et hyper intello pouvait être très, très répulsif. Mais ils balancent ça avec une sauvagerie native. Parce qu'en fait, on dresse les enfants d'Irdir, on les éduque pas, parce qu'au départ, c'est des bêtes sauvages qui tuent tout le monde. J'avais beaucoup aimé cette ambiguïté-là. Toi, tes fils, tu les as créés dans quelle idée ?
Alors, les fils, eux, ils ont cette caractéristique d'être hyper individualistes aussi, en fait. Alors, ils ont plein de caractéristiques différentes de nous, hein, tout bêtement. Ils se reproduisent très tard, par exemple. Ils sont des enfants très tard. Très peu aussi. Ils se reproduisent très peu. Nous, en fait, ce que je voulais montrer aussi, c'est par rapport aux humains, dans la science-fiction traditionnelle, à la Jack Vance, à la SF traditionnelle, on va dire, l'humanité a toujours un petit quelque chose en plus, souvent. Et moi, ce que je voulais montrer avec Oma, c'est que c'est une humanité qui n'a pas du tout quelque chose en plus. C'est que chaque espèce a ses caractéristiques et des caractéristiques très fortes qui les rendent uniques et largement aussi importante et intéressante que l'être humain. Et d'ailleurs, dans le premier volume, normalement, il ne devait pas y avoir d'humains du tout. C'est l'éditrice qui m'a dit, si tu veux en vendre plus de 10, il y a quand même quelques humains dedans. Alors, il en est resté le premier chapitre, où il n'y a effectivement pas d'humains dans le premier volume.
C'est parce qu'elle manquait de clientèle, je pense.
Oui, peut-être, ça devait être ça. Et donc, mes filles, ils ont cette caractéristique d'être... où ils sont si intolérants les uns avec les autres, si individualistes, que ça pose même un problème pour créer une civilisation, pour interagir tout court. Donc c'est pour ça qu'ils passent par un jeu qui s'appelle le fétiche et qui permet de formaliser tout contrat social. Il permet de passer, ils passent par une sorte de médiateur qui est un jeu, une sorte de jeu de rôle, à travers lequel ils peuvent passer des contrats, mais aussi des contrats de mariage, des contrats, tout type d'interaction sociale en fait. Donc je montre. Or, souvent, dans les auteurs, notamment libertariens, ont justement les humains comme particulièrement individualistes face à des aliens, des extraterrestres qui sont plus collectifs ou qui sont souvent montrés comme des insectes. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans la SF traditionnelle, il y avait beaucoup d'insectes.
Ah ben, les Birdir sont insectoïdes.
Voilà, il suffit d'aller jusqu'à... Mais aux origines de la SF, on a des sortes de termitières sélénites avec Wells, déjà. On a et moi ce que je voulais c'est une espèce plus individualiste que les humains, et je montre les humains comme extrêmement grégaires en fait, très très grégaires. Et la caractéristique des humains sur Oman, c'est qu'ils sont grégaires, ils se reproduisent vite. Pour les chiens, on est une sorte de vermine quelque part, c'est-à-dire des trucs pas très intelligents mais qui se reproduisent très vite, et donc il faut essayer de contenir quoi.
De mon point de vue, ça correspond assez bien à la réalité.
Et d'un autre côté, également, on a aussi dans la science-fiction, dans le space opéra classique, des humains qui viennent, qui vont sur les planètes, et donc qui sont souvent de technologies technologiquement avancées par rapport, par exemple, à des espèces, aux espèces qui vont rencontrer sur la planète, donc une autre forme de supériorité. Et là, j'ai voulu aussi casser ça, où je montre en fait les chiffres, c'est la seule espèce sur les trois, il y a les humains, les Hodkin et les chiffres, et les chiffres sont les seuls à avoir conservé la technologie de l'ordinateur. Tout simplement parce qu'ils ont un langage sacré, ils ont un langage profane et un langage sacré, et leur langage sacré, qu'ils ne partagent pas avec les deux autres espèces, c'est un langage de programmation en fait. Et c'est avec ça qu'ils programment leurs IA, leurs intelligences artificielles. Et ce sont les seuls à posséder des ordinateurs, à avoir conservé la caractéristique de l'ordinateur. Mais ça, je dirais, ça rejoint notre thématique de la planète géante, parce qu'une des caractéristiques des planètes géantes, que ce soit la Chai, la planète géante, c'est que comme ce sont des planètes peu denses, il y a peu de minerais, il y a peu d'éléments lourds, et donc il y a peu de technologies. C'est souvent des mondes qui sont technologiquement pas très avancés, parce qu'il y a peu de métal. En fait.
On retrouve ça assez fréquemment.
On retrouve ça assez fréquemment.
Notamment dans Une planète nommée Trahison, carrément le métal sert de. Alors, ce n'est pas une planète géante, mais on retrouve le même schéma dans Une planète nommée Trahison, dans Sons Code Card, dont je conseille la lecture à tout le monde, puisque c'est une partie de l'œuvre de Card où son mormonisme triomphant ne triomphe pas trop. Et où il est vraiment dans l'humanité et dans ce qu'est l'humanité et la recherche de comment elle pourrait vivre ensemble. Mais on retrouve ce truc puisque le métal sert de moyen de chantage aux terriens pour tenir les gens de cette trahison. On va le retrouver aussi dans Magicour, il me semble.
Oui, oui, c'est peu de métal, mais c'est logique.
Voilà.
Dans la logique du planète géante.
Et dans le prudence. Dans La planète géante, directement, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a un roman de Jack Vance qui s'appelle La planète géante avec les baleines de la planète géante, où effectivement, c'est un des moteurs de l'action, c'était ce manque de métal pour les protagonistes. Olivier, du coup, les espèces extraterrestres, c'est la métaphore de l'autre. Toi, je vais m'excuser, je n'arrive pas à dire vous longtemps. Toi, tu es dans une thématique de voyage, mais avec les êtres humains, il me semble.
C'est ça.
Mais on peut tout à fait envisager que les autres civilisations, les gens que croisent tes personnages, soient à l'équivalent des Irdirs, des Chages, des Banches, des Chiles, des autres.
Des Schtroumpfs.
Ça doit manquer, les Schtroumpfs. On n'a pas parlé des Schtroumpfs. Il faudra parler des Schtroumpfs.
Oui, tout à fait. Il y a un candidat sur ce fameux continent. Il y a à peu près une quinzaine de peuples différents et qui ont chacun une façon bien particulière d'être un autre aux yeux du reste de la population. D'ailleurs, c'est un petit peu le sujet du Nordique, un des sujets du Nordique, à savoir. Qui je suis, moi, par rapport à l'autre, qui est quoi, en fait. Suis-je moi-même moi ou un autre, dans quelle mesure ne suis-je pas un autre, et l'autre, dans quelle mesure a-t-il davantage raison que moi d'être un petit peu plus légitime que moi, suis-je plus légitime que lui, dès lors que je suis ce que je suis-je plus légitime que tout le monde à exister. Et donc le continent est un espèce de terrain en particulier dans ce qui se passe autour du Nordique. Il y a deux civilisations un petit peu dominantes sur le continent qui se tirent un peu la bourre. Et le truc, c'est finalement, c'est essayer de déterminer qui, dans l'avenir, aura raison sur l'autre. Je suis en train de me perdre dans une phrase à rallonge.
Reprends-toi. Tu en es pas à qui aurait raison sur l'autre, finalement.
Mais donc, oui, enfin, pour en revenir à la question, effectivement, chaque peuple ayant des caractéristiques assez différentes, ça donne lieu à des possibilités de tension entre les peuples et à la possibilité d'illustrer cette fameuse idée de je suis un autre par rapport à toi et alors, en fait. Donc ce ne sont pas de différentes espèces, ce sont des peuples différents, ce sont des îles sous terre. Alors on ne les voit pas tous dans le Nordique parce qu'il a fallu plusieurs volumes. Pour décrire le continent entièrement, certains peuples vivent sous terre, d'autres sont prétendument des créatures marines, tout en étant humaines, et donc conduisent à des particularités culturelles qui sont des sources de tensions possibles, qui peuvent être utilisées d'un point de vue narratif, pour alimenter les tensions entre les uns et les autres.
Mais au-delà de la rencontre avec l'autre, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la tentation de l'utopie, d'essayer de tester à chaque fois les sociétés qui pourraient fonctionner de façon
Alors je crois que enfin, ce qui me concerne, elles sont toutes pires les unes que les autres.
Donc la position vous est bonne.
Il n'y en a pas un plus sympa que l'autre en fait. Ils sont tous très sympas, néanmoins. Mais non, il n'y a pas de copie, il n'y a pas de civilisation idéale, il n'y a pas de. Bien que chacun imagine que sa propre civilisation est la meilleure. Mais du point de vue du lecteur, non, c'est. On n'a pas un pour attraper l'autre en fait.
Toi, Étienne, tu aurais pas la tentation de l'utopie, non ? Tu voulais faire un Spartacus avec des chaches.
Oui.
Donc tu vas pas imaginer une utopie avec des chaches, sachant que
une utopie de 300 pages, mais c'est d'un ennui.
Ah, il peut se passer des trucs rigolos dans une utopie, regarde. Oui.
Ce contact de sociétés qui ne le sont pas utopiques. C'est intéressant.
Bah oui, c'est toujours à la marge. Mais comme il les traverse là, nos personnages. On peut avoir droit à un insight dans une utopie. Mmh. On n'est pas obligé de rester 300 pages. Je suis d'accord. On s'ennuie à Vichy les Bains. Mais. Mais bon.
Oui. Hein? Mais justement, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de rattacher tout ça à la littérature de voyage, à la tradition de la littérature de l'exploration. Enfin, et là, qui remonte au XVIe siècle, on pourrait quasiment. Et avoir tout cet héritage-là de travail sur le regard. Et là, ce sont des choses qui m'intéressent, de revitaliser, de réenchanter le regard. Parce qu'aujourd'hui, on va voir une vidéo sur YouTube de 15 secondes parce qu'on a découvert une peuplade au fin fond de l'Amazonie. Et on va zapper, passer extraordinairement vite à autre chose. Tandis que dans ce genre de littérature-là, on peut justement recréer du merveilleux sur la notion de l'autre et s'extasier honnêtement de la beauté de l'étrangeté.
Et alors du coup, si je te demandais, à part Child, le Planète Opéra, tu as le plus triotrique.
Ah non, mais moi, c'est les deux premiers volumes de Dune. Mais j'ai arrêté Dune après, parce que j'avais tenté de lire les suites, mais non, les deux premiers volumes de Dune. Même si on est plus dans le space opéra ou planète opéra, mais c'est, à titre personnel, un sommet indépassable.
Laurent ? Oula, ça c'est difficile comme question.
Et pourtant, bateau, c'est même un transatlantique.
Je mettrais Dune et. Dune et Noho, de Dune en fait. Comme, en tout cas pour mon influence, pour m'avoir influencé. Et il y a le monde du fleuve aussi. En genre. Voilà. En fait, c'est. Tout c'est. Moi, je prends ça comme des sortes de simulations. C'est des énormes simulations. On crée un environnement extraordinaire et on balance des personnages et on regarde comment ils se comportent. Aux marges, et c'est pour ça qu'on met des aliens aussi dedans. Ça me permet de nous regarder, nous, en creux, par rapport à justement ce. Et c'est aussi pour ça que les règles sont simples. C'est comme dans un billard. Enfin, les règles, c'est juste deux règles de physique, quoi. Et dans le monde du fleuve, c'est quoi ? C'est juste une planète avec un fleuve qui fait plusieurs millions de kilomètres, qui entoure la planète comme une pelure d'orange. Et puis, l'humanité, et on fait ressusciter l'humanité sur les rives. Ça tient sur un ticket de métro, les règles. Et ça fait six bouquins absolument fabuleux.
Et
les planètes géantes, il y a un petit peu ça. C'est un peu ça. C'est des règles très simples. Et qui font exploser. Et à partir de trucs très simples, c'est un peu comme le chaos. Quoi. On impulse un petit truc et ça fait des conséquences phénoménales.
Vous êtes Vous êtes intéressé dans les jeux vidéo, est-ce qu'on utilise ces façons de voir le monde, la narration?
Trop peu, en fait. J'ai été un peu déçu, moi. Je fondais de grands espoirs sur la création d'univers de jeux vidéo qui me semblait être assez libre. Le jeu vidéo est un prétexte à mettre le jeu dans des conditions d'épreuves successives. Donc les univers, tout ce qui va derrière, les cultures, les questions, les choses comme ça, on s'en fiche un peu. Alors, on s'en fiche pas contre les graphistes parce qu'on cherche pour le besoin de la cohérence graphique du jeu. On va chercher l'histoire, cette peuple, on va chercher une culture, on va chercher du fond. Mais en réalité, ça n'est qu'un habillage visuel. Ça n'est pas jamais. Il y a très peu d'exploration, mais j'adorerais les jeux où on explore réellement des choses à découvrir, et on comprenne à partir de peintures pestres. Là, ok, je fais un lien avec.
Il n'y a pas un jeu qui tente au moins un minimum de faire ça que vous connaissez.
Non. Alors bon, j'ai moi-même travaillé sur des jeux croyant qu'on irait un petit peu dans cette direction, des jeux de rôle. Et puis on s'en tient, c'est des productions qui coûtent très cher, donc il faut un certain nombre de joueurs et d'acheteurs. Donc du coup, on va à l'essentiel, c'est-à-dire il faut que le visuel en mette plein de figures. Et que le gameplay soit prenant, que le joueur soit sans arrêt, soit dans une forme d'addiction. En fait. Donc voilà, tout ce qui tourne autour est un peu superflu dans une production.
Tant, au risque de dire des choses abominables et hérétiques, quelque part, le chat, c'est un peu ça. Le lecteur est placé dans une situation où il suit un personnage qui a toute une série d'épreuves qu'il résout. Au fur et à mesure, toujours le plus fort. Et quelque part, dans le chai, c'est un gigantesque jeu vidéo, donc ça doit être possible.
Alors, c'est une logique de construction de 24 heures chrono.
C'est le temps, le problème.
Troisième, quatrième épisode, on ne se souvient absolument plus, dans 24 heures chrono, ce qui s'est passé dans le premier. Et la raison pour laquelle l'autre est en train de courir, c'est toujours un truc qui fait que, hop, il y a un obstacle, etc. Enfin, bon. Qui fait qu'il pousse à courir. Et on n'a pas besoin, dernier épisode de 24 heures chrono, de se souvenir du premier, de faire un pont, de faire un lien, de vivre dans un univers cohérent. En fait, on n'en a pas besoin. Dans le jeu vidéo, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on explore un univers, lorsqu'on explore un pays aussi réellement, j'aime bien faire des ponts entre ce qu'on voit pousser dehors et ce qu'il y a dans notre assiette, entre ce qu'on voit, les architectures, les costumes, ce qu'on aime bien. On aime bien se laisser imprégner. Dans un jeu vidéo, tant mieux si un graphiste, en général c'est ce qu'on essaye de faire, hein, parce que l'équipe de graphistes, entre nous, on essaye d'apporter une cohérence. Mais elle ne sort pas du cadre graphique. Voilà. Le scénario ne sera pas construit en fonction de cette cohérence. Et ni le gameplay, ni les autres aspects du jeu.
Et alors, du coup, pour que vous fassiez du jeu vidéo avec cette satisfaction de créer, de ne pas réussir à créer le monde de misère, vous faites le nordique. Mais du coup, vos sources à vous. Votre planète de l'essai, vous avez envie de ça, vous avez un roman qui vous a marqué.
Je dirais le Seigneur des Anneaux.
Pas vraiment de l'essai, mais il y a une sacrée planète.
Oui. Voilà, ce serait ce qui est un petit peu, c'est la lecture qui, je me suis dit, tiens, on a le droit de faire ça, quelque sorte. On peut le faire. Bien sûr, il faudra faire autrement. Si un jour j'entreprends de faire quelque chose d'équivalent, ce sera autrement. Mais on peut le faire. Et ce qui transparaît, et ce que j'aime beaucoup, ce qui transparaît, la source d'inspiration de Tolkien, c'est pas. C'est le réel qui transforme, qui devient du fantastique. Et au fond, c'est un petit peu mon fonctionnement aussi. Donc c'est aussi un moteur, un déclic assez important. Et donc, du coup, ma source d'inspiration, c'est surtout des travaux iconographiques, des dessins, des explorateurs, de divers et variés. Voilà, c'est des problèmes qu'ils ont eux réellement. Pour prendre quelque chose et puis le transformer, en faire un univers imaginaire, mais quelque part cohérent, si possible.
La cohérence, c'est un problème de SF la plupart du temps.
Voilà.
Alors, il nous reste quelques minutes. Si le public a des questions. Ah, le public a des questions, la personne de Simon Léo.
Oui, bonjour. J'aurais une question pour Delaine, peut-être, pour ne pas revenir maintenant. Je voulais juste savoir comment vous aviez envisagé votre travail d'illustration sur Child en fonction des modèles graphiques qui existaient déjà. C'est-à-dire que moi j'ai le souvenir des couvertures extrêmement frappantes de Casa pour l'édition que j'ai lue. Il y a aussi une bande dessinée. Comment est-ce que vous avez envisagé ça? Comment est-ce que vous avez procédé finalement vis-à-vis de ce.
Il y avait des exercices aussi qui étaient magnifiques.
Oui, il y a toutes sortes de. Je ne connais pas bien tout ça, mais en tout cas, il y avait un riche matériau visuel déjà. Comment est-ce que vous avez envisagé les choses? Comment vous avez procédé?
Ça m'a surtout servi de point de départ. Après, à partir de là, tout ce qui a été fait avant m'a permis d'avoir une assez bonne emprise en fait, sur l'univers. Et d'avoir justement toute cette base de départ pour ensuite m'amuser dessus, quoi. Et du coup, clairement, ça a été les fondements de ce que c'est devenu. Après, ça a peut-être beaucoup bougé, mais clairement, ça m'a servi comme noyau dur, quoi. Et après, à partir de là, j'ai rajouté les influences. L'influence que les auteurs ont donné et le mélange tout seul, ça fait une bonne soupe.
Quelqu'un d'autre? Étienne, tu veux rajouter quelque chose?
On peut dire merci au public d'être venu en nombre.
Ah bah oui, merci d'être venu. Donc on va arrêter là cette table. Merci. Je vous souhaite une belle soirée.